Nous allons passer à la seconde partie de cette conférence de presse, les questions-réponses. Et une fois de plus, je vais vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre sous silence. Je rappelle que nous avons dans la salle le docteur Lamine Sakho, le représentant pays d'ONU SIDA, le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons également Paul Madidi de la CPI qui est dans la salle pour d'éventuelles questions. Sylvestre Tunga Moudigaï pour l'humanitaire, Geneviève Delenoy et depuis Goma, le colonel Bass. Nous ouvrons donc cette première série de questions avec à ma gauche. Tout d'abord, je vois une main persistante et insistante. Présentez-vous. Une question, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Une question, s'il vous plaît.
Merci, c'est Blaise Assomboli pour AITV. Je m'adresse au représentant spécial adjoint, M. Abdallah Wafi. Je voudrais juste, si vous pouvez nous faire le point de l'opération.
Voilà, venez ici un peu pour qu'on voit.
Ok, merci. Je disais que je m'appelle Blaise Assomboli, je travaille pour AITV, je m'adresse à M. Wafi. Juste demander si vous pouvez aujourd'hui faire le point ou l'état des lieux du désarmement des FDLR. Où est-ce que nous en sommes, parce que nous sommes à un mois de l'expiration du délai. Merci.
Général Abdallah Wafi, quelques mots sur ce processus qui a été enclenché, ça fait bientôt une semaine.
Merci, très bien. Comme vous le savez, ce processus de désarmement volontaire des FDLR qui a commencé, faut-il le rappeler, depuis le début du mois de juin 2014, à la suite de cette opération, un certain nombre d'éléments des FDLR ainsi que leurs dépendances se sont rendus dans nos deux sites de transit à Kanyabayonga et à Walungu. Mais depuis cette reddition, depuis cet désarmement, le camp de transit de Kisangani est resté désespérément vide, les FDLR ayant refusé de quitter ces deux camps. Suite à la lettre qu'ils ont adressée tout récemment aux hautes personnalités internationales que vous connaissez, la mission s'est saisie du dossier et, ensemble avec les autorités compétentes nationales, nous avons pris contact avec les responsables de ces mouvements et, à la suite de cela, nous avons organisé une visite au centre, au camp général Bahouma de Kisangani. À la suite de l'évaluation, les FDLR ont estimé que les conditions étaient remplies pour qu'ils puissent avancer aller à Kisangani. Naturellement, nous avons mis en œuvre un véritable plan logistique de Kanyabayonga sur Munigi. De Munigi, on a mis un C-130, un avion militaire C-130 de la MONUSCO à disposition qui a fait le pont aérien entre Goma et Kisangani. Les autorités congolaises ont mis à disposition un avion à l'aéroport de Kavumu et la MONUSCO s'est chargée à partir de Walungu de mettre des camions militaires pour transporter ces éléments FDLR ainsi que leurs dépendants sur Kavumu. À l'heure où je vous parle, l'un dans l'autre, le camp de Walungu et le camp de Kanyabayonga s'est totalement vidé de ces éléments FDLR, c'est-à-dire et les combattants et leurs dépendants, femmes et enfants, qui sont à l'heure où je vous parle dans le camp général Bahouma à Kisangani. Nous allons dès demain avoir une réunion, le 4, avec les responsables FDLR pour mettre en place la suite de l'opération de désarmement, notamment pour que le camp de Kanyabayonga et de Walungu, qui sont toujours retenus comme étant les camps de transit, que nous puissions en avoir. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est à peu près 600 éléments, l'un dans l'autre, femmes, dépendants et les combattants, qui sont à Kisangani, avec le soutien de la MONUSCO, naturellement avec les autorités congolaises. Comme vous l'avez dit, le délai, c'est le 2 janvier, et nous sommes en train d'encourager le processus pour que, avant la date butoir du 2 janvier, que ce processus puisse, nous l'espérons, prendre fin.
Une question sur ma droite, rapidement, un micro sur la droite. Essayez d'aller un peu au fond, là. Pas les mêmes qui interviennent toujours à toutes les conférences de presse, hein, parce que on a des habitués à ce genre de... Bon, voilà. Lui aussi, c'est un habitué, mais c'est pas grave.
Roger Marley Lukunga, pour le journal Le Paris. La joie a étouffé mon cœur d'apprendre que la République démocratique du Congo a réussi à éradiquer, à enrayer la fièvre Ebola sur son territoire. Mais une crainte demeure tout de même, docteur Lamine Sakho, parce que en Afrique de l'Ouest, une nouvelle fièvre vient de se déclarer. Elle s'appelle la fièvre de Lassa. Et déjà, c'est au Bénin. Alors je crains fort avec le trafic qui existe entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Il y a encore des dangers qui nous entourent. Et alors, la deuxième question directement...
Non, une question, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez-y.
Donc, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez. Mais la transmission de la fièvre hémorragique de Lassa et la fièvre hémorragique Ebola, par rapport au mouvement de population, une corrélation n'est pas automatique. C'est pour cela que nous avons pris acte de cette décision, cette épidémie. Nos experts, particulièrement l'OMS, a mis une équipe autour de cela. Nous sommes en train d'évaluer les risques et l'état de l'épidémie. En ce qui concerne la RDC, nous sommes vraiment optimistes sur cette possibilité. En aucun cas, les dispositions frontalières en termes de respect des normes sur les voyages, en termes surtout d'avoir un état de santé acceptable au moment où nous parlons, tous les aéroports pratiquement ont un dispositif sur ne serait-ce que la prise de la température et sur d'autres tableaux cliniques qui pourraient faire penser à une fièvre hémorragique. Une fièvre hémorragique d'Ebola ne passe plus inaperçue. Donc, en même temps, nous luttons contre le confinement, que les pays ne soient pas confinés à eux-mêmes et les autres isolés. On met un dispositif qui permet aux gens de bouger, de faire la mobilité et un système de sécurité est garanti. Donc, je vous rassure qu'en RDC, honnêtement, on n'a pas encore ce cas actuellement et nous sommes sur le pied de guerre pour cela. Merci.
Direction Goma. Deux questions à Goma, s'il vous plaît.
Ok.
Et une question par journaliste, hein, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. D'accord. Merci. Jonathan Kombi de Vivian FM à Goma. Les ADF ont encore tué mon colonel Bass. Est-ce qu'on peut savoir combien de présumés ADF vous avez aussi tué à Beni en tant que MONUSCO ou carrément vous avez failli à votre mission? Merci.
Merci pour la question. C'est vrai que depuis un temps, il y a une récurrence des tueries dans le territoire de Beni, perpétrée par des éléments supposés appartenir à l'ADF. Donc la MONUSCO n'a pas failli. Elle est sur le terrain, elle travaille en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises. Et à ce titre, pour tenir compte justement de cette menace, de cette nouvelle menace, et du mode opératoire qui est aussi tout nouveau, ça veut dire des tueries à la machette de manière silencieuse dans des coins isolés. Nous avons déployé des troupes additionnelles sur le terrain, nous avons renforcé nos moyens de mobilité, notamment les hélicoptères et aussi des moyens roulants pour prendre en compte cette menace des ADF. Et je peux vous dire que les opérations Sougola ont repris de plus belle et la MONUSCO et les FRDC sont sur le terrain pour traquer ces éléments. Il faut se féliciter entre autres de la collaboration des populations civiles, parce que dans mon propos liminaire, je vous ai bien indiqué que des arrestations assez significatives ont été menées par les forces de défense et de sécurité congolaises, appuyées par la MONUSCO, ce qui nous a donné à peu près une vingtaine d'éléments qui ont été interpellés. Les opérations se poursuivent, et n'oubliez pas que justement c'est ce tandem qui a permis d'affaiblir l'ADF, et qui a permis aux forces de défense et de sécurité congolaises de reconquérir tous les bastions qui étaient jadis occupés par les rebelles de l'ADF dans le Grand Nord. Donc je peux citer à titre d'exemple Madina, Nadoui, Makoyoba 1, 2, 3, Kamango, etc. Donc c'est avec le soutien des populations civiles que nous pouvons réaliser ces objectifs, parce que comme j'ai l'habitude de le répéter, la paix c'est l'affaire de tous. Eh bien, nous sommes dans une dynamique qui est assez positive et d'ici très peu de temps, nous pensons à venir à terme de ce groupe rebelle ADF qui est en train de semer vraiment la mort et la violence dans cette partie du territoire de la RDC.
Et puis, colonel, le partenariat ou le triangle de confiance population de Beni FRDC MONUSCO a permis quelques arrestations récemment, je crois.
Oui, bien sûr, d'ailleurs, c'est à ce titre que, encore une fois, je réitère mes appels aux populations de Beni de manière particulière, parce que, comme je le dis tantôt, il faudra que ces gens résistent aux tentatives d'infiltration, aux tentatives de manipulation que nous observons depuis un certain temps, aussi bien par des acteurs tapis dans l'ombre que par des médiums de la région de Beni. Et nous disons à ces populations-là que ce triangle de confiance que vous venez de nommer, Charles, a été scellé au prix du sang. Le sang des populations civiles, celui des vaillants soldats congolais, mais aussi celui d'intrépides soldats de la paix qui sont venus volontairement porter secours à la RDC.
Deuxième question à Goma.
Oui, c'est Frédéric Ferruzzi de Radio Sorti en Chili. Je m'adresse au responsable de l'ONU-SIDA en RDC, le docteur Sako. Vous avez parlé d'une stabilisation de l'épidémie en RDC. Toutefois, selon certaines sources, le pays est, dans les domaines de la lutte contre le sida, en retard de 15 ans quand on les compare à des pays comme la République sud-africaine ou l'Ouganda. Pouvez-vous donc nous dire ce que font concrètement les Nations Unies face à ces défis et à quel niveau se situerait cette faiblesse du pays en matière de la lutte contre la pandémie?
Docteur Sako.
Merci beaucoup, je vous remercie de cet intérêt. Je répète encore une fois, je pense que nous parlons sur des évidences, des preuves que nous détenons sur la situation de l'épidémie. Chaque province a fait l'objet d'une analyse qu'on appelle profil épidémiologique au niveau de la population générale et des groupes à risque. Au moment où nous parlons, la RDC est partie de 4,5% à 1,2% les années passées. Au moment où nous parlons, l'épidémie est stabilisée, c'est ça la vérité. Maintenant, c'est différent de qu'est-ce que nous pourrons faire pour améliorer la qualité des soins par rapport aux personnels qui sont infectés, par rapport aux forces de l'ordre, la MONUSCO, FARDC ou les groupes à risque. Nous continuons encore une fois à soutenir cette réponse de façon significative. Donc je pense que la situation en Ouganda, Tanzanie, Rwanda, tout ça nous la maîtrisons, nous la connaissons. Elles ont des prévalences beaucoup plus élevées que la RDC. Il y a une mobilité élevée par Subanoma, Kansubalesa, dans toutes nos provinces par rapport à ces pays. Ça veut dire simplement quoi? Développer une stratégie régionale, essayer que chaque pays arrive à maîtriser son épidémie également et à faire face à cela. Pour moi, je pense que vous avez besoin beaucoup d'informations complémentaires que l'ONU-SIDA Goma, qui travaille avec la MONUSCO également, pourrait vous donner pour la situation particulière de Goma. Mais rassurez-vous, en ce qui concerne vraiment la RDC, au plan de l'épidémie du sida, nous sommes sur une bonne voie. Il y a maintenant peu de couverture faible en termes d'accès aux services d'ARV, que les gens disent qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas accès. Je les réponds, allez dans les formations sanitaires. Toute personne qui a besoin d'ARV, s'il n'a pas d'ARV, il s'adresse aux services de santé. Maintenant, si on estime qu'il y a X personnes qui n'ont pas accès, c'est des visions d'esprit. Mais ce que nous voulons faire et rassurer la communauté de Congolaise, c'est que toute personne qui a besoin d'antirétroviraux ait accès à cela. Toute personne qui a besoin d'un test de dépistage ait accès à cela. Toute personne qui a besoin de moyens de prévention ait accès à cela. Et sur ça, on a encore des efforts à faire, comme je l'ai dit, mais la situation n'est pas du tout désespérante. Elle est absolument sous contrôle et nous sommes fiers de nos résultats. Merci.
Voilà, retour à Kinshasa ici. Nous allons prendre une question à gauche et une question, peut-être une dame. On a eu tellement de gentilshommes. Bon, on va vous prendre.
Allons-y, Sangomalam aux télévisions. 15 ans, jour pour jour, la MONUSCO intervenait en RDC. Le bilan est-il positif ou négatif? Il y a une crainte que la MONUSCO soit une mission bien que coûteuse, mais aussi la mission la plus longue au monde. Combien de temps il faudrait, selon vous, mettre pour pacifier la RDC?
Général Wafi, vous avez des éléments de réponse?
Beaucoup d'éléments de réponse.
Mais en bref, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va déborder.
La MONUSCO est de très loin, elle est très loin d'être la mission la plus longue. Vous avez des missions qui ont plus de 50 ans, presque à la création des Nations Unies. Je veux parler du Liban, de la Chypre et d'autres localités. Revenons à la MONUSCO. 15 ans jour pour jour. Le résultat est-il positif ou négatif? Aux Congolais et aux Congolaises de juger. Nous, au niveau des Nations Unies, nous estimons que beaucoup de choses ont été accomplies. Rappelez-vous, ce pays était divisé avec des armées, avec des pouvoirs qui se partageaient le pays comme des restes de guerre, des butins de guerre. Aujourd'hui, la RDC est un pays réunifié avec des institutions qui fonctionnent, avec des institutions très fortes, avec une armée nationale, une police nationale, une justice qui fonctionne, une économie qui est en train de prospérer, de se développer, avec la sécurité dans la quasi-totalité du territoire congolais. Cela grâce aux efforts des Congolaises, des Congolais, des autorités, mais aussi avec l'appui de la MONUSCO.
Voilà, merci bien. Une question, oui, la dame, merci, allez-y.
Laurette Mandal à Africa Télévision, une petite question générale au AFI. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur l'affaire des 10 casquets bleus ukrainiens avec qui on a découvert avec des tenues de la garde républicaine. Certains journaux ont même parlé de l'existence d'un trafic mafieux au sein de la MONUSCO. Nous aimerions avoir des précisions sur cette affaire.
Quelques précisions générales, Wafi, sur cette affaire, comme elle dit.
Merci, Laurette, de me donner l'occasion de parler de cette affaire. Je veux dire, faire la mise au point suivante. Acheter des uniformes congolais, les détenir, les utiliser, donc, constitue un délit en RDC. Il est interdit, au terme de la loi congolaise, nul n'a le droit, pas seulement les FRDC, même la PNC. C'est clair, c'est net. Nous avons appris cet incident. Des investigations sont en cours. Nous coopérons avec ces investigations. Nous attendons le résultat. S'il est établi que ces Ukrainiens sont effectivement responsables de cet acte, ils seront sanctionnés conformément à nos propres dits. Je vous le rappelle, les Nations Unies ont un code d'éthique, de déontologie, un code de conduite qui s'impose à Martin Kobler jusqu'au dernier employé de la MONUSCO. Et tout celui qui violera ces dispositions sera soit rapatrié, soit sanctionné, jusqu'à des peines d'emprisonnement. Personne n'y échappe, notre politique tolérance zéro contre l'impunité. C'est clair, c'est net. Maintenant, vous me permettrez aussi de me poser des questions sur l'exploitation qui est faite autour de cet événement. Des casques bleus, le pays en danger, la thèse d'infiltration de l'armée congolaise, dans son corps, il y a lieu de craindre pour la sécurité même du raïs. Je n'invente rien. Haute trahison dans les rangs de la MONUSCO. Guerre de l'Est, les casques bleus ukrainiens trafiquant des uniformes FRDC. MONUSCO. Mais, excusez-moi, c'est du hooliganisme journalistique ça. C'est du colonialisme journalistique. Les Nations Unies n'accepteront plus. Je le dis, n'accepterons plus. Nous sommes les Nations Unies, nous sommes attachés à la liberté d'expression. Nous encourageons, nous sommes attachés au respect de la liberté de la presse. Nous l'encourageons, nous la soutenons, nous la défendons. Mais nous n'accepterons pas ces appels à la haine, ces incitations à la haine contre les Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est aussi la RDC. Vous avez des troupes des FRDC, la PNC aujourd'hui en Centrafrique. Ils sont allés au nom du peuple congolais, pour aider un pays frère qui a des difficultés. Et c'est tout à l'honneur de la République démocratique du Congo. Mais on parle de quoi là? Non, s'il vous plaît, je crois qu'il faut faire preuve de sens de responsabilité, de mesure, de retenue. Nous ne pourrons pas accepter ces comportements qui n'ont rien à voir avec l'incident en soi. S'il y a des problèmes, on les met sur la table, on discute. Et je voudrais me réjouir, en tout cas au niveau des autorités, que cette affaire ait été traité avec la plus grande attention, sans faiblesse, mais avec un sens de responsabilité. Le moment venu, s'il est établi au nom de la présomption d'innocence, mais s'il est établi qu'ils sont coupables, ils seront sanctionnés et leur pays sera informé de cela. Il n'y a pas que les uniformes, je le rappelle, la flore, la faune, l'ensemble de ces dispositions-là, pour tous les personnels de la MONUSCO, ils sont astreints, ils signent un engagement de respecter la population congolaise, la flore, la faune. Un gramme d'or, un gramme de minerai, un gramme de sont interdits pour les personnels de la MONUSCO. Mais la MONUSCO, c'est 30 000 personnes, dont 20 000 militaires, plus de 10 000 personnes civiles, y compris des Congolais. Il peut arriver qu'il y ait des fautes, des violations de ces règles de conduite. Mais je peux vous assurer, au nom des Nations Unies, au nom de la MONUSCO, ils seront, une fois qu'ils sont établis, sanctionnés avec la dernière énergie. Mais pour autant, nous n'accepterons pas que des incidents soient instrumentalisés et que le grotesque et l'indécence. Non, s'il vous plaît.